penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi. Une émission en dialogue animée par des enseignants et des étudiants de l'IURP à Toulouse.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi Sœur Louisa Madala, qui est la directrice des études du cycle de sciences religieuses et qui est une ancienne de l'IURP, si je puis dire. Ça fait combien d'années que vous enseignez ?
Oui, depuis 2006.
Voilà. Et qui vient de soutenir au mois de mars sa thèse de doctorat sur Thomas, Saint Thomas. Alors, puisque cette année, il y a des grandes célébrations autour de Saint Thomas d'Aquin, précisons tout de suite que votre Saint Thomas à vous, c'est celui des évangiles.
C'est celui des évangiles, exactement.
Voilà, c'est l'un des 12.
Oui, c'est l'un des 12.
Et qui est particulièrement mis en valeur dans l'évangile de Jean.
Exactement. Au contraire, il est mis en valeur que dans l'évangile de Jean, car si nous n'avions que les trois évangiles qu'on appelle synoptiques, à savoir l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, nous connaîtrions que le nom de Thomas, et uniquement d'ailleurs de Thomas. C'est-à-dire dans la liste de 12, des 12 apôtres, dans ces trois évangiles, on a effectivement donc Pierre, Jacques, Jean, etc. et Thomas. Et nous ne serions que cela. C'est grâce à l'évangile de Jean que nous pouvons avoir une certaine caractérisation, comme on dit en exégèse, des traits, disons, vraiment qui caractérisent ce personnage et qui lui donnent une personnalité, si vous voulez, oui.
Alors, au moins dans la culture, on va dire, populaire, hein,
oui.
Être comme saint Thomas, c'est ne croire que ce que l'on voit.
Oui, effectivement.
Alors ça vient d'un épisode des évangiles, ça ?
Ça vient d'un épisode des évangiles, effectivement, de l'évangile de Jean,
oui.
Effectivement. C'est au chapitre 20, si nos auditeurs peuvent avoir un évangile sous la main, c'est au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Et effectivement, je pense à vous qui écoutez cette émission, si vous vous demandez Saint Thomas des évangiles, à quoi on pense ? À quoi pensez-vous ? Voilà, à quoi pensez-vous ? Et je pense que dans l'imaginaire collectif chrétien, tout moins en Occident, parce qu'après évidemment ça peut être sûrement différent dans d'autres cultures, il y a quelques éléments de Thomas qui viennent tout de suite à l'idée. Et c'est certainement, je pense, oui, effectivement, c'est lui qui doute, et c'est lui auquel vous avez fait allusion, qui touche la plaie du ressuscité. Voilà. Et oui.
Non, je pense à un tableau du Caravage que j'ai eu la joie de découvrir l'été dernier in situ à Potsdam, puisqu'il faisait partie de la collection de Frédéric II de Prusse, où l'on voit effectivement ce personnage de Thomas qui a le doigt dirigé vers une plaie de
oui,
Jésus.
Oui, plus que dirigé, Thomas a même un doigt, il enfonce, disons.
Oui,
enfonce
on a l'impression carrément qu'il soulève la
plaie et qui fait entrer son doigt dans cette plaie. D'ailleurs, ce tableau du Caravage qui date à peu près de l'an 1600, hein, environ 1599-1600. Là aussi, on peut très facilement en trouver beaucoup d'illustrations sur n'importe quel navigateur. En écrivant « Incrédulité de saint Thomas et Caravage », on va tout de suite le trouver. Et effectivement, je pense que ce cadre, qui est un des plus célèbres de ces grands maîtres de la peinture, hein, maître du clair-obscur, cette peinture illustre bien, quand on dit Thomas, je pense que dans nos paroisses, dans nos groupes bibliques, si on dit Thomas, on pense à ce cadre. Ce cadre, si on peut effectivement le trouver facilement en tapant sur son navigateur, comme je disais, l'incrédulité de saint Thomas, au centre de ce cadre, on voit des mains. Ce qui apparaît avant et tout, c'est des mains. Il y a les mains de Jésus et puis les mains de Thomas. C'est incroyable parce qu'on dirait que la main de Jésus est en train d'aider la main de Thomas à enfoncer dans la plaie. Voilà, donc ces mains sont vraiment au centre. et disait bien quelque chose du fait que eh bien, Thomas a touché. Or, l'évangile de Jean ne dit pas que Thomas a touché, il ne dit pas non plus qu'il n'a pas fait, mais dans la tradition de l'Église, surtout pendant les premiers siècles, vraiment, c'est dans ce sens qu'on l'a interprété. Et c'est vrai que les pères de l'Église, pendant des siècles, ont vraiment, dans leur catéchèse, affirmé que Thomas a touché. Pourquoi ? Mais il faut se dire que les pères de l'Église sont aussi, je dirais peut-être même avant tout des pasteurs, c'est des prêtres, mais c'est souvent des évêques qui ont tenu compte du contexte dans lequel ils vivaient. Et le contexte dans lequel ils vivaient, c'était souvent des tendances qui sont clairement hérétiques, qui allaient dire, qui affirmaient que Jésus était ressuscité, mais comme une ombre, comme un fantôme ou comme un corps spirituel simplement. Or, la lecture que les pères de l'Église et d'autres auteurs d'ailleurs, hein, même les docteurs de l'Église font de cet évangile de Jean, c'est de dire que Thomas a touché et ça même fut véridique, dit même par exemple Tertullien, au sens que ça atteste bien que c'est bien un corps dans la chair, que c'est bien la résurrection de la chair.
Et c'est voilà. Bien le corps du crucifié aussi.
Et exactement, si on regarde encore toujours ce cadre, il y a quatre du Caravage, il y a quatre personnages, donc Thomas et Jésus qui sont en premier plan, mais en arrière-plan, on a deux autres apôtres non identifiés, deux autres apôtres, et si on regarde les têtes des quatre, on peut idéalement, bien sûr ce n'est pas dessiné, mais idéalement on y voit une croix. Les quatre têtes, disons, forment une croix. Ça aussi, ce cadre dit quelque chose d'une réalité qui d'ailleurs est notre foi, mais encore une fois, qui a été très fortement attestée par les pères de l'Église, que le ressuscité, c'est bien le crucifié. Ce n'est pas une autre, ce n'est pas un sosie. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui a eu corps.
C'est pas un hologramme.
Voilà, exactement. Donc, il y a effectivement cela de cette figure. Et puis, je dirais, Thomas est aussi, bien sûr, celui qui doute, celui qui touche, mais c'est aussi un grand confesseur. Confesseur au sens de confesser sa foi. Il fait la plus grande confession de foi de tout le Nouveau Testament en affirmant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et là aussi, les pères de l'Église ont beaucoup lu cette réponse de Thomas, là par rapport non pas à ceux qui doutaient de la résurrection de la chair, mais ceux qui doutaient, voire affirmaient que Jésus n'était pas Dieu. Je pense à ce qu'on appelle en théologie l'arianisme, hein, contrarius. Donc c'est vrai qu'il est vraiment le héros, je dirais, de la divinité de Jésus. Jésus, vrai homme, c'est lui qui a souffert, donc on le voit, et en même temps, mon Seigneur et mon Dieu, donc ce qui dit la divinité de Jésus. Et toujours dans ce cadre de Caravage, peut-être la divinité est soulignée par le fait que eh bien, toute la lumière vient de la gauche. Pourquoi de la gauche ? Parce que pour ceux qui auraient ce tableau sous les yeux, eh bien, c'est Jésus. Jésus d'abord, lumière du monde, et puis lui-même et ses vêtements sont comme transfigurés, sont lumineux, et c'est peut-être une façon de dire effectivement la divinité. Donc, c'est vrai que celui qui était absent, c'est lui qui touche, qui doute, c'est lui qui touche, mais celui aussi qui fait cette magnifique déclaration, affirmation de foi, qui est la divinité de Jésus.
On a l'impression qu'on a comme deux pôles qui se croisent là. D'une part, on a le crucifié, c'est vraiment lui et il est le vrai Dieu. Donc le vrai Dieu, c'est le crucifié, oui. C'est pas quelqu'un d'autre.
Oui.
Et il est vrai Dieu peut-être parce qu'il est crucifié, enfin ou reconnu comme vrai Dieu parce qu'il est crucifié. Et puis du côté de Thomas, on a à la fois le doute, presque un doute absolu. Et puis, vous l'avez dit, la confession de foi la plus haute que oui. L'on trouve dans l'évangile de Jean.
Et dans tout le Nouveau Testament, hein, je pense même.
Dans tout le Nouveau Testament
voilà,
aussi.
Voilà. D'ailleurs, le père de l'Église parlait de Thomas comme d'un excellent théologien. Theologus Aristos disait même, puisque excellent théologien, c'est au fond, le prologue le disait déjà. Dans l'Évangile de Jean, il y a une partie qu'on appelle le prologue, dans laquelle on dit déjà effectivement cette divinité. Mais ici, c'est à la fin. Au fond, c'est un peu une reprise. on dirait en exégèse une inclusion, mais enfin, ça veut dire que la boucle est bouclée quelque part sur la divinité de Jésus.
Mais est-ce que ça voudrait dire que le doute peut avoir sa place dans une démarche croyante?
Ah, certainement. Certainement, et on va peut-être le voir dans les autres émissions, il y a effectivement que dans Thomas, on peut s'y reconnaître. Parce que ça fait, je dirais, même une foi saine. Dans une foi saine, il peut y avoir la partie du doute. Évidemment qu'après, comme Thomas, il fait un chemin et il va au-delà de ça dans la confession. Mais...
Ou alors, on pourrait dire aussi que ceux qui doutent le plus profondément sont peut-être ceux qui vont ensuite... faire la confession de foi la plus ferme.
Aussi fort dans les doutes et aussi fort ensuite dans la confession. Effectivement, ça c'est peut-être effectivement c'est quelque chose auquel je souscris entièrement, oui.
Alors nous allons poursuivre la semaine prochaine cette série de 4 émissions donc sur Thomas Didyme, Thomas le jumeau, nous allons revenir sur ces termes. Sœur Louisa Maddala, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je signale que vous conduirez une session de 2 jours à l'IERP les 25 et 26 mai prochains, donc jeudi 25 et vendredi 26 mai à l'IERP, une session qui s'intitule précisément « Thomas le jumeau, un disciple, un Christ » dans l'évangile de Saint Jean. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
Merci à vous aussi.